Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire sur Radio Patrimoine. Comme chaque mercredi, on se retrouve pour une heure d'expertise, une heure où nos meilleurs experts vont prendre le temps pour vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine. C'est parti pour Cœur de patrimoine.
Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Et pour ouvrir Cœur de patrimoine, on plonge dans le cœur du monde immobilier en recevant Norbert Fanchon. Bonjour Norbert.
Bonjour Cédric.
Merci beaucoup d'être avec nous pour le groupe Gambetta. On va s'intéresser notamment à ce fameux logement neuf qui fait quand même pas mal parler. Où est-ce qu'on en est déjà si on fait un point là, ce premier trimestre 2024, parce qu'il y a toujours ce petit décalage histoire de compter les logements. Qu'est-ce qu'on en dit en ce moment de ce fameux logement neuf ?
C'est un marché qui continue sa dégringolade. On l'avait laissé fin 2023 sur une baisse de 20-30%. Et ben, premier trimestre, on continue sur cette baisse. Et ça cache beaucoup de disparités parce que dans les métropoles, je pense notamment à Montpellier, Tours, Nantes, on a une chute de 70%. Donc c'est un effondrement. Ouais. Et pour donner un exemple, avant on avait une vente tous les jours et maintenant on a une vente tous les 3 jours. Donc en fait, on a un rythme qui s'effondre rapidement sur ces métropoles. Un marché qui se concentre sur l'Île-de-France. L'Île-de-France, c'était un quart du marché. Là, on est en train de monter à 30%. Et puis, un phénomène un peu contre-intuitif, c'est que les prix augmentent. Donc on a moins de réservations, des prix qui augmentent. Et la conséquence de tout ça, c'est que les promoteurs retirent les dossiers. Alors, retirer un dossier, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a obtenu le permis de construire, on le met
et
en vente.
Et on dit finalement, on le fait plus quoi.
Finalement, on le fait plus parce qu'on n'a pas trouvé le client. On n'a pas les entreprises au beau prix, on a un terrain qui est trop cher ou les clients qui ne veulent pas payer pour équilibrer l'économie. Donc on ne retrouve pas une bonne économie sur nos dossiers. Et donc on retire le dossier. Et il y a eu autant de retraits au premier trimestre que sur toute l'année 2023. Et donc, on a un marché qui est en train, en fait, vraiment de s'adapter à un contexte où la demande a beaucoup disparu.
Ouais, mais pourtant, on nous dit du côté des courtiers ça frémit, qu'il y a de nouveau de l'intérêt. Les banques nous disent, nous, c'est open. Bon, du côté du gouvernement, on semble vouloir y aller, mais on voit que les députés parfois freinent des cas de fer pour surtout pas trop modifier les choses qui devraient peut-être être modifiées. Comment on explique un petit peu cette inertie ? Parce que est-ce qu'on va réussir à sauver le soldat bâtiment ou le soldat immobilier ou le soldat logement ?
Alors en fait, dans l'immobilier et logement, il y a immobilier neuf et logement ancien. En fait, il y a deux grandes familles. Et la promotion a plutôt fait...
Mais enfin, le neuf d'aujourd'hui fera l'ancien de demain, enfin, Gérard...
Oui, mais avec des comportements qui sont différents. L'essentiel des clients sur les métropoles était tiré par l'investisseur qu'on dit Pinel, hein, qui achetait pour louer. Alors que dans l'ancien, on a aussi beaucoup de résidences principales. Donc on a un marché immobilier qui est en train de se rééquilibrer avec une disparition ou une forte attrition de l'investisseur. Et il va rester le socle qui a toujours été là. C'est pour ça que ce que l'on vit, c'est un retournement de marché. C'est pas la fin du monde, mais c'est un marché qui est divisé en volume en gros par deux pour le logement neuf. Il reste l'accession à la propriété et tous les produits gérés. Et donc tout ce qu'on dit dans l'accession à la propriété, c'est pour ça que les banquiers sentent un frémissement, parce qu'ils peuvent enfin reprêter. Hein. Les taux d'usure l'année dernière avaient bloqué le marché. Et là, donc, les banquiers revoient des clients qui achètent pour habiter en résidence principale. Le client qui manque, c'est l'investisseur.
Bon, on va revenir hein, sur ces fameux investisseurs, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans un moment où vous avez envie de dire aux épargnants, à ceux qui peut-être le peuvent, de dire « il faut acheter maintenant un logement neuf ». Ou au contraire, attendez encore un peu, on comprend que le groupe Gambetta n'a pas forcément envie que tous les clients attendent trop longtemps.
Voilà, mais faut attendre. Voilà. Il faut acheter maintenant, mais il faut toujours acheter maintenant. Alors, en fait, on peut acheter maintenant parce qu'il y a des fins de programme, alors ce qu'on appelle des queues de programme, les derniers logements des programmes qui ont été lancés il y a 15, 18, 24 mois en commercialisation, donc qui sont dans un ancien temps. Hein. Enfin, tout ce qu'on est en train de se dire, le retournement du marché de l'immobilier neuf, il a 12 mois. Et donc, les programmes qui ont été lancés avant avril 2023, eh bien, il y a peut-être des bonnes opérations à faire, parce que notre métier, c'est pas d'avoir du stock quand on livre une opération. Et donc, il y a effectivement des promotions, comme on pourrait dire, sur des appartements très spécifiques. Après, vous ne choisirez pas votre logement, vous ne choisirez pas sa localisation, son emplacement dans l'immeuble, ouais. Mais il y a peut-être des choses à faire.
Et puis, Enfin, ce n'est pas forcément ceux dont personne n'a voulu, ça peut être aussi des choses valables, entre guillemets. Enfin, je vous provoque un petit peu, hein, Norbert, mais on se dit, bah, finalement, l'appartement qui n'a pas trouvé preneur depuis 24 mois, est-ce que vraiment...
Il y a de tout. Et surtout, quand vous achetez un logement, et surtout s'il est près de la livraison, comme c'est le cas du produit que je vous propose, allez voir, visiter, allez voir où est la résidence, allez voir où est l'emplacement, allez voir le cadre de vie. C'est ça qui compte quand
on achète souvent, de l'immobilier. Et puis souvent, par rapport à la VFA, on peut le voir là déjà, l'appartement.
Exactement.
Souvent,
hein. Exactement. Donc c'est l'avantage, c'est que vous allez pouvoir le voir, en prendre possession rapidement, pouvoir le louer et donc récupérer votre investissement rapidement. Mais surtout, acheter un bien immobilier aujourd'hui, c'est une garantie de plus-value et de rente. Alors, c'est un peu bizarre ce que je vous dis, parce qu'effectivement, tout le projet gouvernemental, ça va exactement contre ces deux phénomènes. Mais moins on fera de logements neufs, plus on aura un problème de stock et un problème de loyer. Et donc, aujourd'hui, acheter un logement, c'est une garantie que les loyers vont augmenter dans les années à venir. Et puis, quand vous serez propriétaire aussi de votre résidence principale. Et on sait que quand on passe à la retraite, quand on part à la retraite, on baisse en revenus. Et donc, et on a intérêt de ne plus avoir de crédit à ce moment-là. Et donc, effectivement, mon conseil pour vos auditeurs, épargnants, investisseurs, c'est acheter un logement pour gagner de l'argent à la retraite. Et profiter d'une hausse de loyer qui est vraiment probable.
Donc aujourd'hui, ces stocks qui restent, ces banques qui veulent bien prêter, les taux qui commencent à frémir, c'est probablement le moment, nous dites-vous. Malgré tout, on va essayer de se projeter un peu, parce qu'on sait aussi que cet immobilier, c'est un temps long. Et que vous nous avez rappelé, hein, quand on a un terrain, quand on dépose un permis, quand on purge tous les recours, ça se fait pas en claquant des doigts, et c'est donc un temps long. Ça veut dire que aujourd'hui, les décisions qui se prendraient au niveau étatique, au niveau du gouvernement, elles produiraient ces décisions, en effet, dans 18, 24 ou plus de mois. Alors en clair, comme on a arrêté le Pinel, est-ce qu'il faut qu'on mette d'urgence sur les rails, je sais pas, on va l'appeler comment, un casse-barian?
Je pense qu'un casse-barian, c'est en plus un bon, c'est ministre du logement actuel, et puis je trouve que c'est un sens marketing. Pour faire un programme immobilier, il faut en général maintenant 5 ans. 5 ans de montage et 2 ans de construction. Donc en fait, c'est 7
ans.
Un
mandat présidentiel, quoi.
Un mandat présidentiel. Un ancien mandat pour notre génération, un septennat. Et donc les mesures qui seront prises maintenant, effectivement, c'est des effets pour... après 2027, avec un nouveau président. Et quel est le sujet du logement? Le sujet du logement, principalement, c'est la fiscalité. Quand on achète un bien immobilier, on est surtaxé de partout. Alors, que ce soit en résidence principale, mais surtout quand on investit. Hein, si vous êtes sur les tranches marginales des impositions, vous êtes à plus de 60% en taxes. Et donc, tout ce qui s'appelle les lois de défiscalisation, alors on parle du Pinel, mais ça fait depuis 1986 qu'il y a des lois, ça vient compenser en fait une surfiscalité. Et donc, en fait, Bercy nous dit, on enlève les avantages sur le logement, mais on n'enlève pas les avantages sur le logement, on laisse les taxes. Et donc, le sujet, c'est de compenser ça. Est-ce qu'il faut le compenser pour les investisseurs particuliers? C'est ce qu'on fait depuis 1986. Est-ce qu'il faut le faire pour les investisseurs institutionnels? C'est un peu la proposition de beaucoup de fédérations professionnelles. C'est de pouvoir avoir une loi de défiscalisation pour aider les institutionnels à revenir sur le logement. Quand on achète un logement, on fait quoi? On fait un acte économique, un acte social. Un acte économique, c'est de la TVA, c'est de la rentrée d'argent. Bruno Le Maire cherchait 20 milliards en début d'année. Les 20 milliards, c'est les logements qu'on n'a pas construits. Et je peux d'ores et déjà lui dire, on peut lui dire qu'il va manquer 10 milliards début 2025 parce que c'est les logements qu'on n'aura pas construits en 2024. Donc, vous voyez, le logement, c'est 30 milliards
parce
sur 2 ans.
C'est vrai que Bruno Le Maire, il a dit, c'est la fin de l'open bar, ce ne sera plus l'open bar, ceci, cela. Cela étant dit, et tous les professionnels le disent depuis la nuit des temps, oui, la politique du logement coûte de l'argent, mais elle en rapporte plus qu'elle n'en coûte.
C'est un investissement. Hein. Quand on met 1 euro dans le logement, ça en rapporte 4. On met 20 milliards dans le logement, en gros, ça en rapporte 95, si mémoire est bonne. Et puis le deuxième acte qui me paraît important, et notamment au groupe Gambetta, c'est qu'on fait un acte social. Quand on achète un logement et qu'on loue, ou même pour y habiter, on est en train de construire, d'aider quelqu'un à construire sa vie, parce que construire une vie, construire un futur sans logement, construire sa famille sans logement, ça n'existe pas. Et donc, un logement, c'est économique et social.
Donc aujourd'hui, vous lancez un appel à Bruno Le Maire, à Gabriel Attal, à Emmanuel Macron. Quoi que soit l'avenir politique, il faut un plan pour soutenir le logement. On ne peut pas se permettre de rester dans ce marigot où il manque des logements. En plus, le stock aujourd'hui ne permet pas de loger décemment l'ensemble de la population.
L'appel, il est lancé, Cédric, depuis quelques années, quelques mois, hein, au moins depuis début 2023, et il est sur tous les plans. Il est aussi bien, on parle beaucoup là de logements privés, mais il est aussi dans le secteur HLM. En fait, l'immobilier est vu par le gouvernement et le président de la République comme de la rente. Et donc, ça sert à rien de mettre de l'argent dedans. De toute manière, ça va se passer. Oui. Les gens vont se loger, les gens vont payer leur loyer.
Le marché fera son travail.
Le marché fera son travail. Et arrêtons de mettre de l'argent dedans. Le marché, entre guillemets, va s'effondrer et après il pourra repartir de plus belle. C'est exactement ce qui n'est pas en train d'arriver. Donc dans ce scénario gouvernemental, c'est exactement le contraire qui se passe. Les loyers augmentent, l'immobilier devient vraiment une rente et l'économie française en pâtit. Alors ce qui est un peu surprenant, pour être sincère avec vous, c'est que la courbe du chômage devrait avoir un impact. Hein, puisqu'on parle de quand même 300 000 destructions d'emplois d'ici 2025, que ce soit dans le bâtiment, dans la promotion, chez les courtiers, vous en parlez, chez les notaires. Aujourd'hui, la courbe de chômage ne bouge pas. Donc, j'espère que quand la courbe du chômage, alors le j'espère est un peu cynique,
ouais,
vous m'excuserez.
Quoi, mais bon.
Mais aujourd'hui, on voit bien que les gouvernants, les différents ministres du logement, on a fait 3 ministres du logement depuis le deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron, ne disposent pas des moyens financiers pour relancer la machine. Et aujourd'hui, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, on a un ministre qui est volontaire, ouais, dynamique, mais il faut mettre de l'argent dans le système.
Que l'alerte vienne d'ailleurs.
Exactement.
Merci beaucoup de cette franchise et d'être passé nous voir sur Radio Patrimoine. Norbert Fanchon donc, et le groupe Gambetta. Une toute petite pause et on se retrouve.
Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
On poursuit notre voyage ce matin au cœur de votre patrimoine en évoquant maintenant la situation des marchés financiers. Et c'est Daniel Gérino qui est avec nous. Bonjour Daniel.
Bonjour Cédric.
Merci d'être au rendez-vous sur Radio Patrimoine pour Carlton Sélection et nos banques centrales, notamment la Banque Centrale Européenne qui fait pas mal de déclarations, qui regarde les chiffres qui s'accumulent et qui dit pas mal de choses, qui donc est très active et qui confirme donc qu'elle va prendre le lead finalement, ce qui est quasi historique. Hein. Vous savez, nous les journalistes, on aime bien trouver tout le temps les qualificatifs superlatifs. Donc voilà, on va marquer le pas du côté de Francfort en faisant les choses avant la réserve fédérale. Qu'est-ce que ça vous inspire de voir ainsi la BCE à l'initiative ?
Eh ben, c'est une bonne nouvelle, entre guillemets, quand même, parce qu'on avait quand même une situation économique qui était plutôt dégradée en Europe, qui nécessitait une intervention de la part de la Banque centrale. Enfin du pragmatisme, ça c'est plutôt pas mal. Moi c'est un petit peu le sentiment qu'on avait au tout début de l'année, c'était de se dire, bon, la logique c'est toujours la Fed qui donne le ton et la BCE qui suit derrière, mais chez Carlton on avait dit normalement ça devrait être la BCE qui devrait intervenir prioritairement parce que le problème est plus proche de l'Europe que des États-Unis. Alors pourquoi la BCE a décidé d'intervenir ? Il y a des raisons aussi, c'est que l'inflation est quand même revenue tout près des objectifs, hein, à 2,3-2,4, c'est plutôt pas mal. Mais surtout, je crois qu'on a vraiment une Europe qui est en difficulté économique, hein, puisque la croissance va être assez faible, de l'ordre de 0,5, alors que les États-Unis sont sur un train beaucoup plus important, avec une croissance plus forte. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous avez l'économie qui ralentit, la Banque centrale en intervient. Aux États-Unis, l'économie ralentit pas tellement, elle est même plutôt sur un rythme soutenu à 2,5%, donc il n'y a pas de raison a priori de le faire, d'autant qu'aux États-Unis, l'inflation est quand même restée sur des niveaux assez élevés, du moins en apparence. Après, on peut discuter de cette apparence qui n'est pas toujours conforme à la réalité.
D'autant que cette Banque centrale américaine, cette réserve fédérale, elle se retrouve aussi potentiellement coincée par le calendrier électoral. Alors là, encore, on pourrait objecter, mais rien n'est gravé dans le marbre, en fait, ce n'est pas obligatoire. Oui, d'accord, mais n'empêche que, historiquement toujours, j'en reviens à ces superlatifs, la Fed refuse ou accepte de ne pas s'immiscer dans une élection présidentielle. Et là, on sent que le calendrier ne va plus être tout à fait confortable pour la Fed. Ça change quelque chose pour elle ou au contraire, la situation aux États-Unis est telle qu'on n'est pas à quelques mois près ?
Alors, C'est compliqué pour la Fédérale Réserve d'intervenir juste dans la période électorale, parce qu'on peut la suspecter d'avoir des privilèges.
De vouloir influencer l'un ou l'autre.
Et en ce moment, quand on regarde les discussions qu'il y a sur les réseaux américains, ou même sur les providers, les gros providers financiers, vous avez des graphiques qui ne parlent que de Trump, Biden, Biden, Trump, Trump, Biden. Donc c'est chaud, c'est sensible, on en parle énormément. Alors la Fédérale Réserve, oui, c'est compliqué. Alors, une possibilité d'intervenir, ce serait au mois de juillet. Là, très clairement, je pense qu'elle ne le fera pas. Après, c'est septembre, puis décembre. Donc, ça va être très, très, très compliqué. Moi, je pense que, clairement, le train est passé et que la Fédérale Réserve risque de faire un mouvement qu'au mois de décembre, une fois les élections passées, sous réserve de que va-t-il se passer au moment des élections.
Bien sûr.
Et alors, elle est en plus aidée par, finalement, les données macroéconomiques, puisqu'on voit quand même, malgré tout, que la croissance économique américaine est très forte, elle est soutenue. Donc, le président de la Fédérale Réserve, à plusieurs reprises, il a dit bah « Oui, mais moi, j'ai aucune raison de baisser les taux. Je suis dans une situation où l'emploi reste malgré tout solide. Et puis, j'ai ce problème de loyer. » Et là, on peut en parler parce que là, c'est un faux nez. On a une inflation qui est tirée en grande partie, quasiment 30%, par les prix des loyers. Or, l'inflation américaine sort à 3,5%, 2,4% en Europe, hein, pour mémoire. Et lorsque vous regardez cette inflation, elle est essentiellement tirée par ce qu'on appelle les loyers indus par les propriétaires. Les loyers indus par les propriétaires, c'est quoi ? C'est tout simplement le loyer que vous auriez à payer si vous n'étiez pas propriétaire mais locataire de votre bien. Et en général, les biens dont on est propriétaire sont de meilleure qualité que les biens qu'on met en location, donc les loyers sont plus élevés, et ça ne correspond pas du tout à la réalité. Mmh. Ce qui signifie que le taux d'inflation que l'on a aujourd'hui aux États-Unis de 3,5%, quand vous le corrigez de cette donnée-là, c'est plus que 2,6.
Ah oui.
Donc les marges de manœuvre pour la Fed sont là. Mais officiellement, c'est 3,5.
Bon.
Et donc, elle laissera passer sans doute son tour, ce qui veut dire que le dollar va monter.
Oui, c'est ça, parce que pour le moment, tout va bien. Mais si la BCE bouge une première fois, puis une deuxième fois, et que la Fed ne fait rien, là, pour le coup, ça va tanguer sur la devise.
Ça va tanguer sur la devise. Alors attention, parce que si ça tangue sur la devise, ça veut dire que nous, on va avoir les prix importés qui vont monter. Or, revenons toujours sur l'histoire de l'inflation. L'inflation qui est à 2,4, elle est en grande partie tirée par les prix à l'importation, qui sont très bas. Or, si l'euro faiblit face au dollar, ça veut dire que les prix à l'importation vont monter et que finalement, cette marge de manœuvre...
Donc, notre inflation va repartir.
Eh bien, voilà.
Et notamment avec les matières premières.
Alors, les matières premières, aujourd'hui, où il faut regarder le monde de demain, ce sera le monde des métaux et des minerais. Tous les métaux de la transition énergétique, c'est-à-dire aluminium, lithium, cobalt, vous avez le nickel, vous avez l'étain pour les soudures, vous avez le zinc. Tous ces métaux-là sont en train de monter progressivement avec le cuivre.
Et ils se payent en dollars.
Ils se payent bien évidemment. Toutes les matières premières, sauf le gaz naturel, se payent en dollars.
Donc, il faut regarder ça avec beaucoup d'intérêt quand on s'intéresse au contexte dans lequel évoluent nos marchés. Et pourtant, nos marchés actions, eux, ils se portent bien, voire même très bien, voire pour certains, excellemment bien. C'est encore quand même le moment, quand on est épargnant aujourd'hui, d'avoir ou de renforcer ou de constituer une poche action.
Alors, la vraie question, c'est faut-il avoir effectivement des actions ou pas ? Le marché a monté. Mais pourquoi le marché monte ? Le marché monte parce qu'il attend des baisses de taux. Est-ce qu'on a eu des baisses de taux jusqu'à présent ? Non, et pourtant le marché est haut. Pourquoi ? Quelle est l'explication du phénomène ? Tout simplement parce que nous avons une quantité de monnaie qui n'a pas été réduite. La masse monétaire aujourd'hui, dans le monde, enfin, si on prenons simplement États-Unis, Europe, 30 000 milliards de dollars. Ça n'a pas baissé.
Ouais.
C'est ce qui explique que nous allons avoir un marché des actions qui va continuer à monter et nous allons commencer, au cours du deuxième semestre 2024, à créer des bulles. À créer des bulles sur la partie actions, à créer des bulles sur le high yield, les spreads de crédit, et revenir sur une valorisation des actions. Point bas de l'immobilier, pardon. Point bas sur le marché de l'immobilier, fin 2024.
Mais ça veut dire qu'il faut se méfier de cette paraction aujourd'hui, d'autant plus parce que vous nous parlez de bulle, que voilà, il y a des mots hein, en investissement action. On va dire que d'habitude, il y a soit de la stratégie value, soit de la stratégie croissance, ou alors on peut faire un peu de valeur défensive. Enfin bref, voilà, il y a des espèces d'étiquettes qu'on colle sur les actions. Aujourd'hui, on se dit le value, la value, c'est mort. Tout le monde veut que de la croissance. Donc cette bulle, elle se fera sur les 7 magnifiques, sur. Sur le luxe, sur...
Non, parce que la bulle, on ne l'a pas aujourd'hui. Il n'y a pas de bulle. C'est plus valorisé. Mais la bulle, elle va venir...
Oui,
non,
mais elle viendra sur ces thématiques croissance. Alors, sur,
aujourd'hui, analysons rapidement pour un investisseur qui crée un patrimoine. S'il observe ce qui s'est passé depuis le début de l'année, le premier trimestre, qu'est-ce qu'on a eu? C'est les valeurs de croissance qui ont performé.
Ouais.
Et depuis le 1er avril, et ce n'est pas une blague, jusqu'à maintenant, c'est l'inverse. En fait, ce sont... plutôt des valeurs de rendement qui ont performé et les valeurs de croissance qui ont contre-performé. Donc aujourd'hui, il faut être sur quoi? Objectivement, nous, on pense qu'il faut toujours être sur la techno et le luxe. Ça, ce sont des valeurs...
Les grands classiques.
C'est des grands, enfin, classiques,
grands classiques
avec vraiment des perspectives. La technologie, on ne passera pas à travers. La cybersécurité, le pricing power est énorme. Le luxe, oui, parce qu'on voit qu'il y a un petit redémarrage en demi-teinte en Chine, mais ça suffit pour réalimenter les choses. Mais après, il faut faire très attention. Il y a des secteurs dont les attentes de bénéfices sont trop élevées, comme les télécoms, comme l'automobile. Là, il faut se méfier de ces secteurs. Ou l'assurance, où là, on a des attentes qui sont vraiment délirantes, avec des prix trop importants. Et donc, nous, on pense que dans un premier temps, phase de cet été, aller plutôt sur des valeurs de rendement, c'est-à-dire les valeurs qui vont, tout en conservant hein, le socle de technologie, de luxe et de cybersécurité, mais aller sur des valeurs type foncière, sur des utilities, aller sur toutes ces valeurs qui vont bénéficier de la baisse des taux qui va arriver dans les semaines qui viennent.
Et est-ce qu'il faut regarder la taille des boîtes qu'on mettrait en portefeuille là, pour profiter de cette hausse que vous nous pronostiquez entre guillemets, sur les marchés du fait du volume des capitaux? En clair, est-ce que les petites et moyennes capis, qui n'ont quand même pas eu un grand intérêt ces derniers temps et que certains jugent sous-évalués, est-ce que justement il y a matière à profiter, à faire des bons plans, entre guillemets, en allant chercher dans cette partie de la cote qui est un petit peu moins goûtée, on va dire, même si ces dernières semaines, ça a déjà pas mal frémi, mais bon.
Ça frémit, mais ça n'arrête pas de frémir. En fait, c'est les belles endormies qui ne se réveillent jamais. Le problème des small mid-cap, c'est que naturellement, ce sont des valeurs qui ont plutôt un biais, on va dire, croissance, et qui ont, la plupart, également un biais cyclique. Et quand vous achetez des small mid-cap, en tout cas européennes, hein, parce que les mid-cap américaines, c'est des large cap européennes, quand vous achetez des mid-cap
tout
ou des small cap...
Tout est une question d'échelle.
Voilà, européennes, vous achetez un call sur la croissance économique européenne. Là, moi, je ne suis vraiment pas prêt à acheter un call sur la croissance économique américaine, européenne. Pardon. C'est quand même une croissance qui est plutôt atone, donc il faut être extrêmement méfiant. Alors oui, peut-être sur des small mid-cap italiennes, même si elles ont déjà un peu repris, pas mal. Suisse, ok. Grande-Bretagne, ok. Allemande, surtout pas. Française, vraiment neutre. Et il faut faire très attention parce que, encore une fois, ce sont des valeurs qui vivent sur un territoire. Ce ne sont pas des valeurs exportatrices, donc qui ne profitent pas de la dynamique mondiale. Et donc, malheureusement, comme elles sont sur leur territoire et que leur territoire, qui est l'Europe, a beaucoup de mal à déclencher, à avoir de la croissance économique, ce sont des valeurs plus difficiles à maintenir en portefeuille et qui souffrent de la hausse des taux. Et en plus, ce sont les premières qui sont impactées en cas de difficultés liées à des coûts de financement ou des programmes de financement qui sont beaucoup plus réduits, beaucoup plus durs à atteindre pour ces entreprises. Donc, nous sommes plutôt méfiants sur les small mid-cap. En disant une dernière chose, c'est qu'à un moment donné, il faudra effectivement y retourner, mais lorsque l'horizon sera plus clair. Ça fait un an que nous entendons dire les small mid-cap, ça va repartir. Bon, on attend toujours le démarrage.
Le vrai rebond. Bon, il viendra peut-être.
D'autant que les large caps, il y a tellement de choses à faire.
On aura sans doute l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup,
absolument,
Daniel, d'être passé dans Cœur de Patrimoine. Et on se retrouve très rapidement sur Radio Patrimoine. À tout de suite.
Cœur de Patrimoine, Cédric Decoeur.
on ne se refait pas. Les questions fiscales occupent une large place dans l'esprit des épargnants, dans votre esprit si ça se trouve. Et il y a une catégorie d'impôts dont on parle pas mal. Ce sont tous les impôts qui touchent à la transmission, à la succession. Et pour en parler, Olivier Jeanneret est avec nous. Bonjour Olivier.
Bonjour Cédric.
Merci beaucoup d'être présent ce matin, avocat associé chez Arsène Taxan. On va donc parler de cette question des droits de succession, de leur fonctionnement, de leur éventuelle réforme, parce qu'on en a beaucoup parlé il y a quelques mois. D'abord, on peut peut-être les remettre au goût du jour, nos droits de succession, dire un petit peu ce qu'il en est aujourd'hui en France, comment ils fonctionnent, quelle est leur hauteur, enfin bref, nous faire un petit rappel pratique de...
Un petit topo. Alors les droits de succession, droits de donation, c'est la taxation de la mutation de la propriété, donc pour faire le schéma simple, des parents qui transmettent leurs actifs à leurs enfants. Et à ce moment-là, bah, l'État arrive et prélève une dîme. Ce sont les droits de mutation à titre gratuit, comme on les appelle, qui ont lieu soit entre vifs, les donations, soit pour cause de décès, les successions.
Voilà donc le cadre dans lequel on opère. Il représente combien, en gros, parce qu'on sait qu'il y a plein d'impôts. Il y a la TVA, il y a l'IR, il y a l'IS, enfin, l'impôt sur ses sociétés, l'impôt sur le revenu, etc. Ça se positionne comment, tout ce qui concerne la succession, la donation?
C'est une bonne question, parce que souvent, on parle plus des impôts qui rapportent pas beaucoup et moins des autres. Les droits de mutation à titre gratuit rapportent, mais bien moins que la TVA, vous citiez. La TVA, c'est plus de 200 milliards par an. Les droits de succession à titre gratuit, c'est 18 milliards en 2022. Oui. C'était moitié moins en 2012, pour voir à quel point il peut y avoir une progression en la matière. Il faut savoir, parce que tout à l'heure, on parlait des grands principes, il y a des questions de taux aussi qu'on retrouve régulièrement en discussion, puisqu'on est à 45% en transmission, en ligne directe, et dès qu'on n'est pas dans la ligne directe entre parents et enfants, pour faire encore une fois simple, on arrive jusqu'à 60%. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de débats en la matière.
Alors, beaucoup de débats et beaucoup de rapports. On ne va pas tous les citer, mais en gros, il y a eu des études de l'OCDE, il y a eu ce fameux rapport Tirole-Blanchard, il y a eu un avis du Conseil d'analyse économique, et tout le monde y va de sa préconisation sur une réforme, dans un sens, dans un autre, avec un accent mis sur telle ou telle piste. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce bouillonnement d'idées, d'initiatives? C'est poussiéreux, il faut changer, enfin...
Alors déjà, tous ces rapports, assez étonnamment, ils sont tous arrivés en même temps.
Ouais.
C'était en 2021, on les a eu un peu coup sur coup. Naturellement, un rapport comme Tirole-Blanchard va chercher beaucoup plus de sujets que le rapport OCDE, qui était concentré sur cette problématique des droits de succession. Il faut voir, c'est que, on reprend si on, au niveau de l'OCDE, au niveau international, puisqu'on a toujours ce regard, est-ce qu'on fait mieux ou moins bien que notre voisin européen ou un peu plus loin, la France, naturellement, a des taux extrêmement élevés. Donc on aurait pu imaginer que l'OCDE nous dise c'est extraordinaire ce que vous faites, parce qu'à côté de ça, dans les pays de l'OCDE, il faut savoir, il y a plus d'un quart de pays qui n'imposent pas les mutations à titre gratuit. Et sur les autres trois quarts, il y a des taux qui sont très variables. En France, on arrive jusqu'à 45-60%. En Italie, on est à 4-6%. Donc autant dire que
ça n'a
rien à voir. Et c'est pas très loin de chez nous. Et pourtant, malgré ces taux extrêmement élevés, bah, l'OCDE n'a pas du tout donné un billet vert à la France en leur disant que leur système était bon. Et on retrouve la même chose dans le rapport du CAE, dans le rapport Tirole-Blanchard. Qu'est-ce qui est mis en exergue? Ce qui est mis en exergue, c'est qu'en France, comme souvent, comme dans d'autres impôts, on a des taux très élevés, mais on a un gruyère. C'est-à-dire qu'il y a des trous partout.
Ouais,
et
ça.
Ces trous-là, ils posent une vraie question, c'est l'égalité des contribuables devant les charges publiques. Est-ce qu'on respecte toujours cette égalité?
Alors justement, tiens, qu'est-ce qu'ils en disent les contribuables? Ou même, disons, plus les Français, parce que certains ne payent pas cet impôt-là, et puis certains ne payent pas d'autres impôts. Enfin, qu'est-ce qu'ils en disent? Est-ce que d'ailleurs, il y a une corrélation entre le niveau d'impôt qu'on paye et l'opinion qu'on a sur un impôt? Si on prend par exemple ces droits de succession.
En fait, c'est très drôle parce que c'est un impôt pour lequel les contribuables... qu'ils payent ou qu'ils ne payent pas, on va dire le contribuable de façon générale, ils ont un avis à peu près équivalent. Autant pour les autres impôts, par exemple l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, la plupart, plus de 90%, trouvent ça très bien comme impôt. Il faudrait même taxer davantage. Bon, étonnamment...
Ceux qui le payent ne sont pas tout à fait d'accord.
Ouais. Ceux qui ne le payent pas sont d'accord et inversement. Là, on a un impôt où tous les Français sont d'accord pour dire qu'ils n'en veulent pas.
Ah oui.
C'est-à-dire que vous ayez du patrimoine ou que vous n'en ayez pas, on ne souhaite pas avoir de taxation. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours cette idée qui est que le patrimoine n'est pas celui qui est hérité génération après génération, mais qui est la transmission du dur labeur. Et c'est vrai qu'avec cette image-là, qui est vraie dans une certaine mesure, mais qui n'est pas vraie de façon universelle, avec cette image-là, on a l'impression de payer une deuxième fois, d'avoir une double imposition en la matière. Et c'est peut-être là-dessus qu'il faut pouvoir réfléchir aussi à l'avenir.
Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a suffisamment d'arguments pour se dire qu'il faut réformer ces droits de succession, ou au contraire, suffisamment d'arguments pour dire bah non, ne touchons à rien, et est-ce qu'on a quelques pistes dans un sens plutôt favorable ou quelques pistes plutôt négatives? Enfin voilà, vous forgez quelle idée, parce que vous êtes au cœur de cette problématique dans votre boulot. Alors,
il faut savoir que d'un point de vue technique, il y a deux piliers autour de l'assujettissement à l'impôt en la matière. Il y a la question de la résidence fiscale, est-ce que je suis un Français en termes fiscaux? Et après, est-ce que la transmission que j'envisage de faire a un rattachement avec la France d'une façon ou d'une autre, ce qui permet en réalité l'imposition finale? Et quand on regarde cela et qu'on regarde la date à laquelle les règles ont été définies, c'est post-guerre, c'est le début des années 70. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est entre 50 ans et 70 ans plus tard et les textes n'ont pas changé.
Alors que le monde, lui, a considérablement évolué. Ouais.
Exactement. Donc vous mettez tout de suite le doigt sur un des points qu'il faut pouvoir appréhender, c'est notamment cette mobilité internationale qui n'existait pas à l'époque et qui aujourd'hui a un impact extrêmement fort dans l'équilibre en réalité vis-à-vis de cet impôt. Une fois qu'on a dit ça, après, l'autre sujet qui est de dire on a des taux très élevés, mais on a des trous dans notre gruyère. Il faut se reposer, je pense, comme à chaque fois, la question de savoir est-ce que ces trous, qui sont des dépenses fiscales en réalité, on donne un avantage à quelqu'un en fonction de l'actif qu'il possède. Notamment, on a le pacte Dutreil qui a été énormément pointé du doigt ces derniers mois et années. Donc voilà, il faut se poser la question de savoir si ces niches fiscales, ces dépenses fiscales sont encore nécessaires et potentiellement de rééquilibrer les taux d'imposition par rapport aux assiettes qui sont effectivement taxées.
Vous nous avez emmené tout à l'heure regarder un peu ce qui se passait autour de nous en donnant quelques chiffres comme ça. Est-ce que lorsqu'on a l'habitude de travailler justement sur cette mobilité internationale et donc sur des systèmes fiscaux différents, lorsqu'on a lu tous ces rapports, on se dit en Allemagne, en Angleterre ou plus loin au Canada, aux États-Unis, enfin bref, est-ce qu'il y a comme ça quelques systèmes où on se dit si on s'inspirait un tout petit peu de tel ou tel dispositif, on en tirait quand même des bénéfices, que ce soit bien sûr pour le contribuable, mais aussi pour les finances publiques, pour une meilleure circulation des dépenses, peut-être un système plus juste, peut-être, enfin voilà.
Alors, il y a un système que j'aime beaucoup et assez étonnamment, c'est pas celui auquel on pourrait penser au premier, c'est le système américain. Alors, d'une part, aux États-Unis, il y a la question de la nationalité qui préempte en réalité toute question fiscale et qui, quelque part, empêche les gens de déménager juste pour des raisons fiscales. Donc, il y a un côté qui est plus sain, je trouve, par rapport à l'approche fiscale. Après, en termes de transmission, ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'il y a des abattements très élevés. On est à 11 millions d'abattements par an. Et donc, on peut arriver quasiment à 25 millions de dollars d'abattements pour les transmissions de patrimoine. On est à 100 000 euros en France. Donc, autant dire qu'il y
a de la marge.
Mais la petite différence, c'est qu'on n'a pas ce qu'on appelle la réévaluation des actifs. Ça veut dire qu'en France, il y a les parents qui ont un actif qu'ils ont eu pour zéro et qui vaut 1 000. Ils le transmettent à leurs enfants. Si les enfants le vendent le lendemain matin et qu'ils le vendent pour 1 000, ils ne font pas de plus-value. C'est-à-dire qu'on a payé des droits de donation. Mais on ne paye pas des impôts sur la plus-value. D'accord. C'est ce qu'on appelle la purge de la plus-value. Aux États-Unis, on n'a pas ça. C'est-à-dire qu'on va vous dire, normalement, sur un patrimoine de moins de 25 millions, vous n'allez pas payer d'impôts sur les donations ou sur les successions. Mais si vous revendez l'actif, on va considérer que vous l'avez eu pour zéro.
Ah oui.
Et quelque part, je trouve ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça donne une grande liberté de transmission, puisqu'en réalité, on n'empêche pas la transmission par des coûts qui peuvent être dirimants et qui peuvent pousser certains à vendre des actifs. Mais si l'idée n'est pas de préserver cet actif dans la famille génération après génération...
Si c'est d'en profiter, on passera à la caisse.
À ce moment-là, on passe à la caisse. Et donc, j'aime bien de repousser l'imposition à plus tard. Alors après, c'est là où il y a une difficulté technique, c'est qu'on est sur un impôt qui est l'impôt sur les donations ou les successions, et on va bifurquer sur l'impôt sur les plus-values. Et donc, les règles ne sont pas les mêmes, territorialement parlant notamment, et en termes d'assiette, tout ça peut évoluer. Mais voilà, c'est une idée que je trouve intéressante.
Vous aviez rappelé que tous ces rapports OCDE, Tirole Blanchard, CAE, étaient tous arrivés en même temps. Il y avait une raison à cela, c'est que se profilait une élection présidentielle en France et que cette question était un peu dans un certain nombre de programmes. Est advenu ce qu'il est advenu. Pour le moment, ces programmes ou ces idées ont été remisées sous le boisseau. Il faut qu'elles ressortent, elles peuvent ressortir. Vous considérez qu'il y a une chance qu'on réforme vraiment un jour ces droits de succession ?
Aujourd'hui, tout ce qui est sorti, c'est de la réforme, c'est du millimètre. Parce qu'on était là en train de se dire, c'est pas 100 000 tous les 15 ans, mais ça serait 100 000 tous les 10 ans, où on passe à 200 000. En réalité, le sujet, il n'est pas là. Encore une fois, on a les droits de succession et les droits de donation. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'était 18 milliards en 2022. Certainement, ça va augmenter, puisqu'on a l'effet Papy Boom, où il y a beaucoup de patrimoine qui n'a pas encore été transmis et qui va arriver.
Qui va changer de main.
Donc forcément, ça va créer certainement plus de rentrées d'argent. Mais effectivement, les réformes telles qu'elles sont proposées aujourd'hui, j'appelle pas ça une réforme. C'est plutôt du populisme.
Donc un épargnant aujourd'hui dans sa politique patrimoniale, il n'a pas à se préoccuper de ce genre de considération, il n'a pas à adapter sa gestion de patrimoine pour prendre en compte une éventuelle réforme, parce que si elle se fait, on sera à peine dans l'épaisseur du trait, c'est ça ?
Aujourd'hui, c'est le cas, sauf sur la question du pacte Dutreil, qui est spécifique à la transmission d'entreprise. On pourra en reparler, mais je pense qu'il faudrait un peu plus de temps pour ça aujourd'hui. Et là, il y a beaucoup de discussions sur des réformes en profondeur. Après, je dirais, s'il y a un conseil à donner aujourd'hui, et les chiffres sont intéressants en la matière, c'est que sur les 18 milliards en question, il y en a moins de 20% qui sont des droits de donation. Donc, ce sont des transmissions du vivant. Et les 80% restants, c'est des transmissions pour cause de décès. Et quand on pratique la fiscalité patrimoniale du matin jusqu'au soir, on sait que par l'anticipation, on arrive à réduire par deux, par trois, les droits à payer. Et ce qui est assez...
Il faut transmettre de son vivant, il faut organiser ça.
Et voilà. Et c'est vrai que les chiffres ici nous mettent en exergue le fait que les gens n'anticipent pas.
Ouais, donc ce n'est pas une réforme des droits de succession qu'il faut faire, c'est une réforme de la mentalité. Réfléchir au mouvement de son patrimoine ne va pas nous faire mourir. Alors certes, il ne faut pas se dessaisir, mais il faut transmettre. Quoi.
Exactement.
Merci beaucoup Olivier Jeanneret, donc Arsène Taxan ce matin sur Radio Patrimoine. On se retrouve très bientôt.
Avec plaisir.
Merci d'être passé nous voir dans Cœur de Patrimoine et nous on continue bien évidemment à vous accompagner.
Cœur de Patrimoine, Cédric Decoeur.
On continue bien évidemment notre voyage, notre série de conseils autour de votre gestion de patrimoine et on parlait de frais de succession, de droits de succession, de donation il y a un instant. On va rester un petit peu dans cette typologie, pas forcément la plus agréable en parlant de décès évidemment, mais ce sont des choses dont il faut parler aussi lorsqu'on s'intéresse à la gestion de patrimoine et on accueille pour ce faire Amélie Ziegelmeyer. Bonjour Amélie.
Bonjour Cédric.
Pour le groupe La Place, sujet effectivement pas des plus guirets, mais en parler ne veut pas dire qu'on va mourir tout de suite, donc c'est aussi important d'en parler. On va parler de tout ça. Comment est-ce qu'on anticipe finalement sa succession et comment du coup, en fait, parce que c'est ça le nerf de la guerre, on protège finalement ses proches?
Alors, le premier conseil serait de s'y intéresser. Déjà, savoir en cas de décès qui hérite et dans quelle proportion. C'est fondamental puisque quand on accompagne des clients sur ces sujets-là, on se rend compte qu'il y a énormément d'idées reçues. Je peux prendre un rapide exemple. Pour un couple marié sans enfant, si vous décédez et que vous avez encore vos parents vivants, ils héritent de 50% de votre patrimoine. Un quart chacun. Donc, ce qui signifie que le conjoint survivant, il se retrouve en indivision avec ses beaux-parents. Wow. Donc, même s'il s'entend bien avec eux et qu'il a un droit de voyager sur la résidence principale, ça peut quand même être inconfortable. D'où l'importance, de savoir ce qui se passe pour pouvoir agir dessus si jamais ça vous convenait pas.
Alors, il faut savoir comment ça se passe et puis il faut savoir ce que ça va coûter aussi parce qu'on en parlait à l'instant, il y a des droits de succession, il y a des droits de donation, enfin il y a une facture, un frottement fiscal comme on dit dans votre langage.
Oui, tout à fait. Alors on peut rappeler que le conjoint et le partenaire de PACS sont exonérés de droits de succession, mais effectivement pour les autres héritiers, en fonction du patrimoine reçu, il peut y avoir des droits à payer. Pour les calculer, on applique un abattement et un barème qui va être fonction du lien de parenté. Après, il y a possibilité, si le patrimoine est illiquide à plus de 50%, donc par exemple avec de l'immobilier, de nous demander un fractionnement des droits, qui peut aller jusque 3 ans. Et s'il s'agit d'entreprises, ça peut même aller jusque 10 ans. Et puis, il y a aussi la possibilité, qui n'est pas forcément très connue, si vous recevez le patrimoine en démembrement, en nue propriété, de demander de différer les droits de succession et de les payer au jour où vous serez plein propriétaire. Après, ces deux options, elles ne sont pas gratuites. Au contraire, hein, ça majore même le coût successoral. Donc, il y a un taux d'intérêt légal à payer. Là, pour 2024, c'est 2,20 et sur les transmissions d'entreprise, 0,7. Et c'est pour ça que un des moyens, en tout cas, pour alléger la facture fiscale, effectivement, c'est de commencer à transmettre de son vivant. C'est ce que vous disiez, en commençant à donner soit en nue propriété, soit en pleine propriété.
Et quelles mesures, justement, on peut mettre en place pour mettre de l'huile dans les rouages, pour faire que les choses se fassent au fil du temps, grâce à ce système de donation ?
Eh ben, en fait, les conseils, ils vont dépendre de plein de paramètres. Évidemment, ils ne seront pas les mêmes en fonction de votre âge, en fonction de votre patrimoine, en fonction de vos revenus, en fonction de votre situation familiale. Un élément sur lequel on peut agir de son vivant, justement, pour protéger ses proches, c'est l'union qu'on choisit.
Puisque, ouais, le régime matrimonial, donc.
Oui, ou déjà le régime matrimonial, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si jamais vous êtes en concubinage, pour protéger l'être aimé, c'est plutôt à bannir, puisqu'il n'est pas héritier. Donc, par exemple, si vous êtes seul propriétaire de la résidence principale, du jour au lendemain, il peut se retrouver à la porte. Et si vous avez envie de lui léguer quelque chose dans un testament, c'est 60% de droits à payer pour lui. Donc, voilà.
Donc, il faut bien y penser pour le concubin.
Voilà, le concubin plutôt à éviter, en tout cas en termes de protection, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui. Le partenaire de Pax, il a un traitement fiscal plus favorable, puisque lui, il ne paye pas droit de succession. Mais en revanche, il n'est pas héritier non plus. Donc, il faut le nommer dans un testament, c'est indispensable. Donc, vous parliez du régime matrimonial. Effectivement, en termes de protection, c'est ce qu'il y a de mieux. Puisque c'est la seule union aujourd'hui qui confère un statut d'héritier. Et aussi, c'est la seule union qui permet de percevoir une réversion de la retraite en cas de décès.
Ah oui.
Donc après, ce qui va jouer sur la protection que vous allez avoir, c'est justement le fameux choix du régime matrimonial, et sachant qu'on peut aussi le coupler avec des aménagements matrimoniaux. Le plus protecteur, ce serait la communauté universelle avec une clause d'attribution intégrale, où là, il n'y a pas d'ouverture de succession, tout va directement au conjoint survivant. Après, attention, là, le conjoint est particulièrement favorisé, mais c'est au détriment des enfants, puisque forcément, comme il n'y a qu'une succession, ça leur coûtera plus cher.
Et justement, les enfants, si les parents étaient mariés d'une certaine façon, enfin sous un certain régime, et qu'ils décident de changer pour ce système-là, ils ont leur mot à dire, ils doivent donner leur accord, ils doivent être au moins informés.
Oui, tout à fait, ils sont informés. Donc, si ça leur convient pas, ils peuvent tout à fait s'y opposer. Puis après, c'est un juge qui tranchera. Après, la particularité, c'est que pour les enfants mineurs, maintenant, c'est plus un juge aux affaires familiales qui tranche, c'est le notaire qui valide le changement de régime matrimonial si c'est dans l'intérêt de la famille. Donc, il y a eu un changement sur ce sujet-là. Depuis 2019.
Hein. Vous avez évoqué rapidement la question du testament. Et effectivement, tout le monde l'a en tête, hein, cette fameuse scène chez le notaire où on ouvre l'enveloppe et où on découvre ce qu'il y a dedans. C'est vraiment comme ça que ça se passe. C'est-à-dire, on peut y mettre ce qu'on veut, on écrit, et après, ça s'impose, c'est ça, un testament ?
Alors, techniquement, vous pouvez léguer l'intégralité de votre patrimoine dans un testament. On parle de legs universel à une ou plusieurs personnes. Après, attention, en France, les enfants sont héritiers réservataires, donc ce qui signifie que vous ne pouvez pas les déshériter. Donc si jamais ils s'estiment lésés, ils pourront saisir un avocat et mener une action en réduction.
D'accord.
On peut rappeler rapidement la partie dont vous disposez librement, hein, qu'on appelle la quotité disponible. Si vous avez un enfant, c'est la moitié de votre patrimoine. Si vous avez 2 enfants, c'est 1/3 de votre patrimoine. Et si vous avez 3 enfants et plus, c'est 1/4 de votre patrimoine.
Après, donc ça, on peut en faire ce qu'on veut, mais le reste, c'est réservé aux enfants.
Voilà. Et après, le testament, de toute façon, il peut être utile. Alors, on l'a vu pour les concubins. Pour les partenaires de Pax, c'est indispensable. Mais même pour les couples mariés, ça peut avoir son sens, puisque aujourd'hui, le thème, c'était plus protéger ses proches que les déshérités. Donc, on peut prendre un exemple où le testament a vraiment son utilité pour protéger à la fois son conjoint et ses enfants dans le cadre de familles recomposées où on a des enfants qui ne seraient pas communs.
Ah oui. Eh oui, il faut...
Il faut penser à tout. Parce que si jamais il y a une succession, le conjoint va hériter 1/4 du patrimoine en l'absence de disposition. Ce qui signifie que ce quart-là, au deuxième décès, il n'ira pas à vos enfants, mais à vos beaux-enfants. Ce qui peut ne pas vous convenir. Donc le fait de léguer dans un testament l'usufruit à son conjoint, ça le permet de le protéger. Et puis comme ça, vos enfants sont nus propriétaires. Et donc au deuxième décès, celui de leur beau-père ou de leur belle-mère, ils deviennent plein propriétaire. Bien donc sûr. Ça permet à votre patrimoine de rester dans votre lignée familiale. Donc le testament, c'est vraiment un outil, on peut faire du sur-mesure. Et c'est extrêmement complémentaire avec un régime matrimonial, avec des aménagements matrimoniaux. On a la chance d'avoir une grande souplesse au niveau de notre droit civil, donc il faut vraiment en profiter. Et puis c'est complémentaire avec d'autres outils, hein, tels que l'assurance vie par exemple.
Ouais, on va venir sur l'assurance vie, évidemment, parce que c'est un outil particulièrement intéressant dans ce cas-là. Juste pour terminer d'un mot, ce testament qu'on écrit à la main, c'est ça ?
On peut l'écrire à la main, en tout cas il a une valeur juridique. Après nous on recommandera quand même de le faire enregistrer chez un notaire.
Ouais, c'est ça, on ne le met pas dans une plainte, dans une armoire.
Vous pouvez, mais après c'est le risque qu'il ne soit jamais retrouvé. Voilà, donc ce serait dommage, parce que le but c'est quand même de faire...
Le mieux c'est de l'enregistrer chez son notaire, c'est
nous, ça. Nous en tout cas c'est ce qu'on recommande vivement, au moins vous êtes sûr qu'il soit bien rédigé et surtout qu'il s'applique, parce que dans la plainte je ne suis pas sûre que quelqu'un le retrouve. Il faut que la personne soit bien attentionnée aussi.
Voilà, exactement. Allons-y, on parlait d'assurance vie, enfin on se dirigeait vers l'assurance vie avant que je vous ennuie avec mes questions de plainte. C'est un outil essentiel aussi dans ce mécanisme de transmission, de protection de ses héritiers.
Oui, c'est un outil qui a vraiment toute sa place aujourd'hui dans une structuration patrimoniale, puisqu'on peut rappeler qu'avec les clauses bénéficiaires, on peut vraiment faire du sur-mesure. Vous pouvez nommer vos bénéficiaires de façon égalitaire, inégalitaire, on peut démembrer la clause, elle est modifiable à tout moment. Et ce qui est un peu dommage en pratique, c'est qu'on a une belle souplesse, mais elle est peu utilisée. Souvent, trop souvent, on rencontre la clause standard,
le conjoint, là.
Voilà, voilà, vous avez tout compris, le conjoint à défaut les enfants. Et comme on sait qu'aujourd'hui, le conjoint, on l'a rappelé, exonéré de droit de succession, tant que ce sera le cas, c'est un peu dommage de ne pas mettre au moins les enfants pour partie, puisqu'il y a quand même un traitement fiscal qui est extrêmement favorable, hein, 152 500 par bénéficiaire, les 700 000 suivants c'est seulement 20%, et au-delà 31-25. Donc pour diminuer une assiette taxable, c'est un outil qui est assez redoutable, en tout cas pour les familles les plus fortunées. Et puis aussi une façon de protéger son proche, c'est d'assurer une certaine liquidité de son patrimoine pour qu'il puisse justement couvrir les droits de succession. Donc l'assurance vie permet ça.
Et aujourd'hui, cette clause bénéficiaire, c'est un outil extrêmement puissant qui peut être ciselé de plein de façons. Donc il faut vraiment se rapprocher de son conseil pour tout faire bien. Et si votre compagnie d'assurance vous dit non, mais moi j'accepte pas cette clause-là, au pire, on dit qu'elle est déposée chez Maître Intel, et comme ça, on est tranquille, la compagnie d'assurance ne vous fera pas de misère. Est-ce qu'il y a d'autres dispositifs que cette assurance-vie, parce qu'il y a quelques assurances et autres qui traînent aussi dans ce domaine de...
Oui, exactement, il y a énormément d'outils qui existent pour protéger vos proches, notamment tout ce qui est dispositif assurantiel. Un outil auquel on ne pense pas forcément, mais qui est une belle protection, c'est l'assurance décès emprunteur sur les crédits immobiliers, puisque parfois on a des clients qui nous interrogent sur l'intérêt de rembourser par anticipation leur crédit. Alors, au-delà des considérations financières qui fait que ce n'est pas forcément intéressant de le faire, puisque les intérêts sont majoritairement remboursés au début, et qu'en plus, si l'emprunt a été souscrit sur la dernière décennie, on est
plutôt sur des taux rembourser trop vite.
Très compétitifs, mais c'est surtout une excellente protection pour la famille. Et d'ailleurs, il ne faut pas hésiter à jouer sur les taux de couverture, puisque parfois on est assuré à 50-50, mais pourquoi pas majorer ce taux-là, être par exemple à 60-60, comme ça, celui qui reste, il n'a plus que 40% de l'emprunt à rembourser, parce que sur les biens immobiliers, en pratique, les charges afférentes aux biens ne sont pas divisées par deux au jour du décès, au contraire, elles restent identiques, je pense à la taxe foncière, tout ce qui est électricité, chauffage, donc voilà, ça peut être une protection pour votre famille.
On a les contrats de prévoyance aussi,
Oui, bien sûr, les contrats de prévoyance qui permettent justement aux bénéficiaires désignés de percevoir soit un capital, soit une rente par exemple pour le conjoint, ou pour financer les études des enfants, ça peut être une rente éducation. Et le bonus de ces assurances décès, c'est que les capitaux reçus sont hors droit de succession. Donc c'est un avantage qui est loin d'être neutre. Après, en général, pour les salariés cadres, c'est prévu par leur employeur, mais pour les travailleurs non salariés, effectivement, c'est une enveloppe intéressante à avoir dans son patrimoine.
Alors là, on était dans le cadre, on va dire, personnel, dans le cadre civil, etc. Quand on rentre dans la vie entrepreneuriale, lorsqu'on est chef d'entreprise, dirigeant, etc., il y a aussi d'autres considérations qui doivent être prises en compte. On a déjà dit un mot il y a quelques semaines dans le cœur de patrimoine, mais revenons-y parce qu'il y a quelques garanties qui s'imbriquent dans la vie d'entrepreneur et qui sont aussi là importantes pour protéger les proches.
Oui, tout à fait. Il y a par exemple la surhomme homme-clé, où l'entreprise va verser une cotisation qui va lui permettre de recevoir, par exemple, au moment du décès. Parce que là, c'est vrai qu'on parle que de décès, mais il y a aussi d'autres moyens de se protéger hein, en cas d'invalidité, d'incapacité, mais qui va permettre à l'entreprise, en cas de décès, de recevoir une somme qui aura été déterminée au moment de la signature du contrat. Et cette somme, en général, on pense souvent pour la pérennité de l'entreprise, puisque voilà, ça va permettre de recruter une personne, de couvrir des charges, mais ça peut être aussi un excellent moyen, et ça fera lien avec le sujet d'aujourd'hui, d'indemniser ses proches. S'ils n'ont pas volonté et vocation à rester dans l'entreprise, plutôt qu'ils soient actionnaires passifs, ça permet cet argent, cette trésorerie récupérée, de leur proposer de sortir via une réduction de capital. Et puis comme ça, ça permet à vos autres associés de continuer à piloter l'entreprise sans avoir voilà, d'actionnaires passifs. Et donc, c'est une bonne protection pour votre famille. Et d'ailleurs, s'ils n'ont pas la capacité de gérer, il y a un autre outil qui est le mandat à effet posthume qui permet de désigner de votre vivant un mandataire ou plusieurs mandataires qui pourront gérer les actifs désignés, donc pour une entreprise, ça s'y prête totalement, qui auront vocation justement à gérer l'entreprise pendant une certaine durée si vos héritiers n'ont pas la capacité de le faire.
Bon, ben voilà, ça fait quand même pas mal de pistes. Qu'est-ce qu'on se dit en conclusion
Ce qu'on peut se dire en conclusion, c'est qu'il faut s'en occuper. Hein, ouais. Parce que moi, il y a une citation que j'aime beaucoup de Bernard de Fontenelle qui dit « Ne prenez pas la vie au sérieux, vous n'en sortirez pas vivant. » Mais malgré tout... pour la succession, c'est quand même important de s'en occuper, puisqu'on a vu ensemble qu'il y avait énormément de dispositifs, que ce soit sur l'union choisie, des aménagements matrimoniaux, les clauses bénéficiaires de son contrat d'assurance vie, un testament si c'est nécessaire, tous les outils assurantiels tels que la prévoyance décès, l'assurance décès emprunteur. Donc il y a énormément de choses, mais forcément c'est de son vivant que ça doit être organisé. Et le fait de s'en être occupé, voilà, ça permet d'être plus serein sur ce sujet-là, que vos proches soient à l'abri. Et puis comme ça, vous pourrez continuer à profiter pleinement de la vie.
N'ayez pas peur de vous occuper de ce terme, hein, parce qu'à part quelques mystiques, tout le monde y passera. Merci beaucoup Amélie Ziegelmeyer et le groupe La Place dans Cœur de Patrimoine.
Cœur de Patrimoine, Cédric Decoeur.
Et on termine en soufflant quelques bougies avec Astrid Cousin. Bonjour Astrid.
Cédric.
Porte-parole de Magnolia. Quelques bougies parce que il y a 2 ans, un tout petit peu plus, en mars 2022, a été promulguée la loi Lemoine qui, nous dit le journal officiel, portait sur un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l'assurance emprunteur. Bon, on rappelle un peu moins pompeusement de quoi on cause.
Alors, il y a vraiment deux grands pans de cette loi qui ont été mis en vigueur le 1er juin, donc c'est pour ça qu'on fête son anniversaire. Le premier, c'est le changement d'assurance à tout moment. Donc, les délais sont terminés, vous pouvez changer des signatures du contrat avec votre banque, vous pouvez changer finalement dès la semaine suivante. Donc ça, c'était une première grande révolution. Et la deuxième grande révolution également, c'était la fin du questionnaire de santé pour tous les prêts de moins de 200 000 euros lorsque le crédit se termine avant les 60 ans de l'emprunteur.
Alors, ces quelques points-là, ils sont apparus parce qu'il y avait des soucis qui bloquaient un petit peu, qui empêchaient. Il y a eu plein d'étapes, etc. Et toute la profession et une partie des médias s'était mobilisée pour dire « Allez, maintenant, il faut un petit peu améliorer les choses ». Une fois que ça a été voté, une fois que ça a été promulgué, une fois que c'est rentré en application, ça a été un vrai succès, cette loi ?
Exactement. Comme vous avez dit, Cédric, on faisait des lois pour faire pansement sur des premières lois qui avaient été votées, mais qui finalement ne connaissaient pas le succès attendu. Donc, au bout d'un certain temps, certains députés se sont rassemblés et ont décidé qu'on arrêtait justement ces fameuses lois pansement, qu'on allait aller loin dans la plaie, qu'on allait vraiment essayer d'ouvrir ce marché au maximum. Donc, c'est comme ça qu'on en est arrivé à la résiliation à tout moment, et non plus soit quand vous voulez la première année, soit chaque année date d'anniversaire avec un préavis de 2 mois, etc. Donc maintenant, voilà, ça laisse une liberté à l'emprunteur total. Et c'est vrai qu'au départ, ça a été un très grand succès. Chez Magnolia.fr, par exemple, on avait plus 80% de demandes de changement d'assurance. Donc c'est colossal à notre échelle.
Ouais.
Le CCSF, d'ailleurs, aussi a noté ce bond de 80% de changement. Donc finalement, on a été assez révélateur de ce qui s'est passé sur le marché. Mais pour autant... quand on regarde un petit peu dans le détail, le marché, lui, n'a à peine bougé d'un pour cent, puisque les banques aujourd'hui détiennent toujours 84% du marché de l'assurance emprunteur versus 85%.
Donc en clair, tous ceux qui étaient dans la seringue se sont précipités et ça a fait une bosse sur vos courbes, mais après c'est tout.
Oui, il y a eu un très grand engouement médiatique déjà, qui a été couvert par toutes les grandes chaînes. Donc je pense que ça a bien sûr aidé. L'information s'est diffusée et en effet, tout le monde a saisi l'opportunité. Mais pour autant, c'est un marché tellement énorme. En fait, on parle de tous les emprunteurs français.
Pourquoi il n'y a plus de séisme ? Pourquoi finalement, l'ensemble des emprunteurs, puisque tout le monde pouvait, entre guillemets, être concerné, ne s'est pas présenté au guichet ?
C'est une grande question. Je pense que quand même, le premier point, c'est bon, il y a quand même des démarches. Et c'est vrai que les Français, on a un petit peu des problèmes avec ça. Moi, la première, hein, d'essayer d'envoyer un courrier, voilà, ça peut durer un mois, donc je le comprends. Puis il y a aussi la peur de la banque, c'est-à-dire que est-ce que si demain je retire mon assurance de la banque et que je veux réemprunter, est-ce que la banque va me suivre ?
Eh oui, c'est ça.
Donc il y a quand même ces deux gros éléments qui freinent cette ouverture du marché.
Mais parce que ce marché, une fois ouvert, enfin, la loi disant ce qu'il faut faire et ce qu'on peut faire, les banques n'ont pas suivi. Enfin, aujourd'hui, vous dites c'est uniquement de la faute des consommateurs parce qu'ils n'ont pas pris le taureau par les cornes. Ou est-ce que quelque part aussi, on va dire, le secteur n'a pas trop joué le jeu ?
Alors, les banques, c'est vrai qu'elles ont mis en place des nouvelles manœuvres qui ont pour objectif d'empêcher l'emprunteur de quitter l'assurance groupe bancaire. Donc, ça va être des manœuvres... On ne va pas rentrer dans le détail, mais ils vont ajouter des garanties, des choses qui sont très compliquées lorsque l'emprunteur veut substituer son contrat. Il y a aussi les délais qui ne sont toujours pas respectés. Donc la loi dit que la banque elle a 10 jours ouvrés faire changer les assurances, pour du moins accepter la nouvelle assurance. Finalement, on est sur des délais de 3 semaines, 1 mois, 2 mois parfois aussi. Donc c'est encore des dossiers qui traînent, donc certains emprunteurs qui se rétractent.
Oui. Et finalement ça marche pas, je laisse tomber, oubliez mon.
Voilà, exactement. Et puis il y a aussi bien sûr aussi, et ça c'est normal, c'est le marché des banques qui vont s'aligner et qui vont dire moi je propose un contrat défensif et dans ces cas-là l'emprunteur lui il fait le choix de rester avec sa banque
bien
ou
sûr.
Non. Voilà.
Bon. Dans ces cas-là, c'est tout bonus pour l'emprunteur quand même qui a
Exactement, tout à fait, qui a gagné 10-15 000 euros et en restant avec sa banque.
Du coup, aujourd'hui, on se dit quoi ? Il faut faire quelque chose de plus pour faire bouger le mammouth ou on se dit, ça va être une question de une génération, deux générations de prêts pour que on en ait fini avec ces tarifs d'assurance, on va dire maison, contrat groupe, qui étaient exorbitants, hein, parce qu'on rappelle effectivement les sommes qui sont en jeu. Hein. Alors effectivement, c'est petit à petit. Petit, hein, mais sur 20 ans,
sur
25 ans,
c'est 10-15 000 euros, exactement. Ouais. Ouais. On est sur des tarifs 2 à 4 fois plus chers que la concurrence. Mais en fait, le vrai problème qui se pose, c'est au moment de l'octroi du crédit. À partir du moment où l'emprunteur a signé avec sa banque à ce moment-là, parce que souvent, il n'a pas le choix. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant de voir, c'est que plus le marché s'ouvre, moins l'emprunteur il a la liberté de changer au moment du crédit. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, on arrive, nous, quasiment plus du tout à faire passer des contrats d'assurance sur un nouveau crédit. Donc, par exemple, à l'époque, on faisait 30% d'assurance sur des nouveaux crédits et 70% de changement d'assurance. Aujourd'hui, on est quasiment à plus de 90% de changement d'assurance. Donc, ce qui prouve que les banques, elles verrouillent à ce moment-là. Et tant que le verrou sera
clair,
là...
En clair, enfin, on ne va pas se cacher à son petit doigt. La banque, elle dit, vous ne prenez pas mon assurance, vous n'avez pas le crédit, c'est
exactement,
ça ?
Exactement, c'est ça. C'est des offres packagées. L'emprunteur, il ne sait même pas exactement pourquoi il signe. En tout cas, il est tellement heureux d'avoir un crédit, surtout en ce moment, qu'il va signer. Et puis, en fait, une fois qu'il a signé, il est content. Et voilà. Et c'est à ce moment-là, finalement, qu'on perd plus de la moitié, voire deux tiers des emprunteurs qui ne vont plus jamais bouger.
Et du coup, aujourd'hui, parce que je me souviens, on a suivi quand même cette arrivée de la loi Lemoine, tout le monde était satisfait. Donc, aujourd'hui, on peut aller plus loin que la loi Lemoine ?
Le seul moyen, ce serait vraiment que les banques soient sanctionnées. Du moins, il faut quand même rappeler que c'est depuis 2010 qu'elles n'ont pas le droit de vendre d'assurance emprunteur reliée à leur crédit. C'est la loi Lagarde qui délie l'assurance et le crédit. Donc, c'est une loi qui est très claire. Le problème, c'est qu'il n'y a absolument aucune sanction. Tous les régulateurs ferment un petit peu les yeux, bien qu'on soit tous audités un par un. Donc, elles sont quand même au courant de ce qui se passe. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même des législations, ça avance, etc. Mais tant qu'elles ne seront pas sanctionnées, finalement... Pourquoi reculer ? C'est un marché énorme. On rappelle que c'est un marché à 8 milliards d'euros par an. Donc, c'est un marché colossal pour les banques qui, en plus, ne se font quasiment plus d'argent sur le crédit immobilier. Donc, l'assurance emprunteur, finalement, c'est devenu la poule aux œufs d'or pour eux. Et donc, elles ont tout intérêt à conserver ce monopole.
On rappelle peut-être pour nos auditeurs les quelques idées qu'il faut avoir en tête, enfin, ou les quelques critères, parce qu'on se souvient hein, au moment des renégociations de crédit, on disait qu'il faut encore avoir X années de remboursement de crédit à faire, il ne faut pas être ceci, il faut être cela, enfin bref, il y avait comme ça une espèce de cadre où chacun pouvait assez rapidement se faire sa photo et se dire, bon bah oui, il faut que j'appelle mon courtier ou non, c'est même plus la peine que j'appelle mon courtier. Aujourd'hui, un emprunteur qui aurait fait l'autruche, qui n'aurait encore rien tenté, rien écouté, qu'est-ce qu'il faut qu'il se dise, qu'est-ce qu'il faut qu'il regarde pour peut-être se décider à appeler un courtier, Magnolia on l'espère pour vous, mais voilà, à se dire « je m'occupe de mon assurance emprunteur ».
Alors, il faut être, c'est mieux dans la première moitié de son crédit, donc souvent dans les 10 premières années de son emprunt. Il y a aussi des tranches d'âge qui sont importantes. C'est vrai que passé 45 ou 50 ans, les taux augmentent énormément en délégation. Donc c'est vrai que plus vous... En fait, il faut se dire que plus vous êtes jeune et moins vous avez attendu, plus les économies vont être très importantes. Ce que je vous disais tout à l'heure, on parle de 10-15 000 euros. Un couple de 30 ans, c'est 15 000 euros par emprunteur d'économie. Donc ça peut être 30 000 euros à l'échelle d'un couple. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut se dire. Et surtout, il faut se dire, allez sur un comparateur. Donc il y a bien sûr Magnolia, mais il y en a plein d'autres sur Internet. Vous tapez vos quelques infos et puis vous comparez et en 3 secondes, vous avez un tarif. Au pire, vous êtes au-dessus. Bon, bah, vous restez avec votre banque et vous êtes en dessous, vous changez.
Ça n'engage rien. C'est très simple.
Mais bien sûr, moins vous avez attendu, plus ça va être intéressant.
Bon, alors ça, c'est vraiment le changement d'assurance, etc. Juste un petit mot aussi de ce questionnaire de santé, parce que ça avait pas mal fait jaser aussi. Et on s'était dit, ça va juste remonter les tarifs et puis il n'y aura plus d'intérêt. Et puis, enfin, c'est bien quand même de pouvoir emprunter sans questionnaire de santé jusqu'à.
Alors oui, ça peut être une opportunité absolument exceptionnelle, en fait, quand on a eu un gros problème de santé, qu'on est jeune. Pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas de recul. Est-ce que finalement, la fin de ce questionnaire de santé, ça a engendré plus de sinistres? Ça, c'est pour l'instant, on n'y est pas. Ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, le marché, il s'est un peu divisé en deux. Il y a tout le marché hors questionnaire de santé, avec des tarifs un petit peu plus chers qu'avant.
D'accord.
Bien sûr, si aujourd'hui, vous empruntez 150 000 euros... votre assurance, ça va être un petit peu plus cher qu'avant la fin de ce questionnaire de santé, puisque le risque, finalement, a été reporté sur...
Mutualisé.
Ouais. Voilà, exactement. Et puis, il y a tout le marché en dehors, donc tout le marché de 100 000 euros et plus, qui, là, n'a pas bougé. Donc, ça reste une opportunité qui est vraiment exceptionnelle, ce que je disais tout à l'heure, pour quelqu'un qui a eu un gros pépin de santé, qui est jeune et qui souhaite monter un projet immobilier qui n'aurait pas pu avant. Donc, pour l'instant, c'est très, très intéressant. Nous, ça n'a pas eu d'impact particulier, en tout cas chez Magnolia. Je pense que dans 10 ans, quand les assureurs auront un petit peu regardé,
il faut laisser faire la pyramide des âges.
Exactement, tout à fait, c'est ça. Et là, on pourra en effet dresser un vrai bilan.
Merci d'être passé souffler ces deux bougies de la loi Lemoine, Astrid Cousin et Magnolia.fr cette semaine. Voilà, c'est la fin de Cœur de Patrimoine. On se retrouve bien évidemment mercredi prochain et je vous souhaite une très bonne semaine.
Cœur de Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.